gens du monde, Geneviève Delrue.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous retrouvons le père Jean-Jacques Pérennez, directeur de l'IDEO, l'Institut d'études orientales du Caire, fondé dans les années 30 par le père Antonin Jossin. La biographie du père Jossin, intitulée « Le père Antonin Jossin, une passion pour l'Orient musulman », préfacée par Henri Laurent, professeur au Collège de France et publiée aux éditions du CERF, raconte la vie d'une figure dominicaine méconnue et la vie d'un prêtre baroudeur fasciné par l'Orient de cette fin du 19e et du début du 20e siècle. Le bibliste, l'exégète formé à Jérusalem à l'école du Père Lagrange, va parcourir à dos de chameau et à cheval le désert, et sa connaissance du terrain en fera un agent de renseignement auprès des troupes britanniques lors de la Première Guerre. Une vie d'aventure qu'a voulu sortir des cartons Jean-Jacques Pérennez.
Oui, ça s'est fait d'abord parce que je vis dans la maison qu'il a construite. Il a construit un couvent au Caire en 1930, qui abrite aujourd'hui l'Institut dominicain d'études orientales. Et donc, je vis dans ses murs, en quelque sorte, et j'ai accès aux archives qu'il a laissées. J'ai trouvé, par exemple, ses carnets de guerre, tous ses embarquements dans des navires britanniques ou français, etc. Donc, je me suis trouvé en présence d'un homme, en effet, apparemment pas connu, mais qui a participé à la grande histoire. Et donc, je me suis plongé dans tout ça et j'ai découvert un itinéraire humain absolument passionnant.
Un itinéraire qui commence en Ardèche, puisque le père Antonin Jossin, né en 1871, dans un petit village, dans une famille pauvre, rien ne le destinait à vivre sa vie au Proche-Orient.
Absolument pas. Quand on fait une biographie, moi j'aime bien aller voir tous les lieux. Donc un jour j'ai pris ma voiture et je suis monté dans les hautes collines ou les petites montagnes de l'Ardèche. J'ai trouvé un bled complètement paumé, un petit hameau. Je me dis comment peut-on imaginer que ce type va se retrouver un jour à la fondation de l'école publique de Jérusalem, aux négociations avec les Britanniques, y compris Laurence d'Arabie sur l'avenir du Proche-Orient. Enfin, il y a un destin un peu d'exception. Alors, il s'est retrouvé là-dedans parce que jeune, il est entré dans une sorte de petit séminaire que tenaient les Dominicains.
Il est repéré par les Dominicains, en fait.
Oui, je pense qu'il va faire des études, voilà, des études secondaires, et puis il veut devenir religieux, il va en Hollande, parce qu'à l'époque, les religieux français sont en exil.
Et parce que les congrégations ont été expulsées.
Voilà, il y a eu une première expulsion en 1880, et donc le père Lagrange, voulant démarrer une école biblique à Jérusalem, a besoin de troupes, et voilà, on lui envoie quelques jeunes, dont Jossin, qui arrive donc à l'âge de 19 ans, 1890, tout jeune. Et alors, il y a déjà là un décalage très beau. J'ai appelé ça des collines d'Ardèche aux collines de Judée, enfin, ou des montagnes ardéchoises aux collines de Judée. Il y a une sorte de... Et c'est l'émerveillement. Comme Lagrange, je veux dire, tout d'un coup, ces hommes-là qui sont dans une France marquée par la guerre de 70, il y a un pessimisme français, hein, après la défaite de 70. C'est pas drôle, c'est triste, il y a eu le phylloxéra, il y a eu des tas de trucs. Bon, ils se retrouvent tout d'un coup dans des beaux horizons, il y a des beaux ciels, puis c'est les pays de la Bible, ils vont à Capharnaüm, ils vont à Cana, tout ça, pour eux, a une résonance absolument étonnante.
Alors, il faut aussi expliquer un fait qui est très important, c'est on est aussi au début d'une recherche biblique sur le terrain, hein, c'est la grande révolution du père Lagrange avec la création de l'école biblique de Jérusalem. Alors, oui. Expliquez-nous déjà cette école, ce qu'elle représente et pourquoi d'ailleurs l'Église, dans un premier temps, va s'opposer aux premières découvertes.
Lagrange avait fait des études en Autriche et en Allemagne à la fin du 19e siècle, et c'était une époque où il y avait un grand renouveau de toutes les sciences annexes à la Bible, on va dire, hein, l'épigraphie, la linguistique, l'histoire, etc. Et les outils modernes de la science ne collaient plus avec ce qu'on disait sur la Bible. On ne pouvait plus dire, par exemple, qu'Abraham avait vécu 600 ans ou qu'on n'avait plus les mêmes certitudes. Et donc, Lagrange crée une école où il veut justement utiliser tout cet acquis de la science moderne dans une perspective catholique, non pas pour foutre par terre les connaissances sur la Bible, mais vraiment pour servir une meilleure compréhension de la Bible. Et donc, il crée cette école dont l'idée, au fond, c'est de comparer le texte, de lire le texte dans son contexte. Il disait, il y a le document, la Bible, et il y a le monument, il y a tout ce qu'il y a autour. Et donc, il va créer une école pratique d'études bibliques, à l'image de l'école pratique des hautes études, qui va en quelque sorte mettre des savants au contact de la réalité du monde de la Bible. Ils vont faire de l'épigraphie, alors Jossin va être très vite embarqué là-dedans, avec le père Savignac. Ils vont aller à Palmyre, ils vont aller à Petra, ils vont estamper des inscriptions sur les tombeaux, etc. Ils essaient d'utiliser les acquis de la science pour une meilleure compréhension de la Bible. Et évidemment, ceci va coincer assez vite, parce que leurs conclusions vont être que, bon, ben, ce qu'on enseigne traditionnellement dans le monde catholique, n'est pas tout à fait compatible avec les découvertes modernes. Et donc, par exemple, le père Lagrange, qui avait préparé un grand commentaire de la Genèse au début du XXe siècle, a dû le mettre dans un tiroir à la demande du Saint-Siège, et on lui a dit « Occupez-vous du Nouveau Testament, c'est moins compliqué ».
Oui, c'est ça, il a failli même être mis à l'index.
Hein. Ah oui, il y a certains de ses ouvrages qui ont été carrément mis à l'index, interdits d'enseignement dans les séminaires, et pour lui, c'était une très rude épreuve. Alors, Jossin est avec quelques autres, je dirais, tout autour de Lagrange. Hein. Ce sont les troupes qui sont avec lui et qui, justement, labourent tous ces terrains de l'épigraphie, de l'histoire. De Jossin, lui, c'est plutôt un ethnographe. C'est quelqu'un qui se passionne. C'est un homme qui a le sens du contact humain. Il est très doué pour les langues. Il apprend très vite l'arabe, le sabéen, les dialectes sud-arabiques, etc. Et donc, il va circuler dans ce qui est aujourd'hui la Jordanie, et puis un peu la Syrie, Palmyre, etc. Et donc, il fait un premier travail sur les tribus arabes du pays de Moab, donc de l'actuelle Jordanie, pour montrer justement tout le vécu humain. Mais ça éclaire d'une certaine manière la Bible, parce que ce qui est dans la Bible, c'est des comportements bédouins, très souvent. Et donc, Jossin, il acquiert cette première expertise, et il va travailler avec d'autres, en particulier Raphaël Savignac, qui lui fait de l'épigraphie.
Alors, il y a des anecdotes extrêmement succulentes dans votre livre, Père Jean-Jacques Pérennès, parce que c'est une époque où, bon, partir à dos de dromadaire, ça comportait des risques quand même. Il fallait avoir un physique aussi. Il faut quand même parler du physique du Père Jossin, c'est un colosse.
Hein. Ah oui, c'est un type étonnant et très gonflé, dirait-on aujourd'hui. Quoi. Oui, il partait à cheval, il partait à chameau. C'était encore l'Empire ottoman, mais un Empire ottoman très fragilisé. Donc, il y avait beaucoup de pillards, de gens, et les étrangers étaient un peu soupçonnés. Il y a eu les grands explorateurs, Burckhardt, etc., qui auparavant, les Anglais, Burton, qui avaient été assez mal vus, des musulmans. Donc, aller mettre son nez, Jossin va en Arabie. En 1904, n'est-ce pas, faire l'exploration de Médaïn Salé, qui est une très très belle nécropole nabatéenne du même niveau que Petra. Et donc, évidemment, ils se font attaquer en route, ils ont des gardes, ils doivent défiler, enfin, partir à toute vitesse, ils ont toujours avec des fusils, enfin, c'est très impressionnant.
Il y a même un moment, alors là, c'est pas Jossin, c'est le père Lagrange avec le père Vincent, ils sont tous les deux à cheval, ils sont poursuivis.
Oui, ils sont poursuivis par des pillards, et alors Lagrange dit à Vincent, donnez-moi l'absolution, parce qu'à l'époque, évidemment, donc très rigrax ces trucs-là. Et Vincent lui dit quelle formule ? Il y en avait plusieurs, semble-t-il, et Lagrange répond la plus courte. Bon, mais Jossin lui-même est attaqué avec d'autres, avec le carrière Tisserand, qui à l'époque était jeune lecteur aux manuscrits arabes de la Vaticane. Hein, et ils font une expédition ensemble aussi. Tisserand était élève de l'école publique. Et ils font une expédition ensemble quelque part du côté de Palmyre. Et ils sont aussi attaqués et ils perdent une partie de leur bagage. Enfin, il faut dire aussi qu'ils commençaient à faire du travail très intéressant parce que non seulement ils faisaient ces enquêtes ethnographiques au contact des populations, ils faisaient des relevés d'inscriptions, mais ils commençaient aussi à faire de la photo. Et ça, c'est un élément très important parce que l'école publique a acquis très tôt des appareils assez modernes pour l'époque. Et donc, on partait à chameau avec, dans des cadres en bois, des plaques de verre. Et l'école publique a aujourd'hui une collection de plus de 15 000 plaques de verre qui est unique au monde et qui est un témoignage unique sur ce qu'était le monde de la Bible à cette époque-là. Et donc, ils font des photos, Alors, évidemment, ça attire un peu quelquefois les soupçons des populations locales, donc il faut être un peu gonflé. Enfin, c'est Jossin négociait, il trouvait des chefs de tribu, il payait des guides, se faisait un peu avoir, il râlait. Un personnage.
Jacques Pérennès, ce que montre votre livre, c'est que la connaissance du terrain, j'allais dire intime, des Bédouins notamment, eh bien, va conduire le père Antonin Jossin à être un acteur, je dirais, de la grande histoire, c'est-à-dire celle de la Première Guerre mondiale.
C'est étonnant, ça bascule très vite. En 14, les religieux français, qui sont donc ennemis de l'Allemagne, et donc des Turcs, puisque la Sublime Porte est alliée à l'Allemagne, sont ramassés par les Turcs pour être déportés en Asie mineure. Bon. Et puis le pape Benoît XV obtient leur restitution et ils sont mis sur un bateau un dernier jour de décembre 1914 pour aller regagner l'Europe. Et pendant la nuit, ce bateau italien est accosté par un navire britannique qui demande la liste des passagers et il devait y avoir à bord quelqu'un des services de renseignement ou un homme très cultivé et voyant le nom de Jossin, il dit « Est-ce que je peux lui parler ?» Et il lui dit « Est-ce que vous êtes le Jossin qui a écrit sur les tribus de Moab ?» qui était un bouquin, semble-t-il, connu, il dit « Oui, c'est moi. Vous venez avec nous ?» Et donc il débarque de son bateau quasiment de réfugiés et il se trouve sur un navire britannique qui l'emmène à Port Saïd où il est engagé dans les services secrets britanniques pour la Première Guerre mondiale. Puis ensuite avec les Français dans le service d'information de la marine du Levant. Et alors il leur révèle tout de suite, ce qui à ses yeux était une certitude, que les Turcs allaient attaquer le canal de Suez par le désert. Les états-majors pensaient que c'était impossible parce qu'ils disent non, le désert, on peut pas passer, c'est aride, il n'y a pas d'eau. Et Jossin dit, moi je l'ai fait plusieurs fois ça, et si on n'est pas nombreux, si on n'est pas chargé, on passe. Et finalement, il arrive à les convaincre. Alors, il y a des rencontres absolument hautes en couleur avec l'état-major britannique au Caire, le général Maxwell, etc. Et ça aboutira même à une rencontre de Jossin avec Lawrence d'Arabie dans le Golfe. Enfin, c'est... Et les Britanniques vont donc être convaincus et, avec les alliés français, préparer un comité d'accueil, si j'ose dire, de navires qui vont accueillir et défaire les Turcs qui attaquent en effet le canal de Suez en février 1915.
Une défaite très importante pour l'Empire ottoman qui sera démantelé à la fin de la guerre.
Oui, et surtout le canal de Suez, c'était la route des Indes. Pour les Britanniques, c'était absolument capital, n'est-ce pas? Et donc, ça a été une affaire stratégique. J'ai dans mon bureau au Caire la médaille qui a été remise à Jossin pour la défense du canal de Suez.
Et alors, père Jean-Jacques Pérennez, pourquoi appelez-vous le père Antonin Jossin l'anti-Laurence d'Arabie?
On l'appelle un peu l'anti-Laurence d'Arabie parce qu'il y a chez Laurence une sorte de mépris. Laurence, vous savez, est un personnage très paradoxal, très curieux, un peu malsain à la limite. Hein. Il y a une sorte à la fois de fascination pour l'arabe, avec des petits relents d'homosexualité, hein, et puis en même temps un peu de mépris, c'est quand même des bédouins. Alors que Jossin, lui, il aime ces gens-là. Et c'est peut-être en cela, c'est aussi l'anti-Laurence, au sens que Laurence a quand même servi ce machiavélisme britannique. Vous savez que les Britanniques avaient promis à Faisal, donc le futur roi de Jordanie puis d'Irak, un grand royaume hein, qui inclurait la Palestine, et que dès que la guerre a été finie, lorsque Faisal est venu à la conférence de paix à Paris, on lui a dit « Écoute, tu es bien gentil, mais tu rentres sous ta tente, nous on va s'occuper de l'avenir du Proche-Orient ». Et donc il y a eu, d'une certaine manière, chez Jossin, une attitude beaucoup plus digne, je crois, moins machiavélique par rapport à tout ça.
Une attitude, c'est ça, plus respectueuse des droits et d'une amitié même qu'il avait nouée.
Oui, Jossin n'était pas là, comme je dirais, beaucoup d'Occidentaux qui viennent, même des orientalistes, quelquefois, qui sont un peu de passage quand même. Mmh. Ils viennent parce qu'ils ont des études à faire, qu'ils ont des choses à écrire. Lui, il est allé là-bas, comme je dis pour nous-mêmes, nous allons avec un aller simple. Il n'y a pas de problématique du retour. Sa vie est là-bas. Il n'envisage pas de vivre ailleurs. Et d'ailleurs, il ne quittera l'Orient qu'à 89 ans, lorsqu'il est épuisé, qu'il n'en peut plus, et il vient mourir en France. Mais toute sa vie a été là-bas. Il y a une sorte de lien presque charnel avec, c'est pour ça que j'ai intitulé le livre en sous-titre, une passion pour l'Orient musulman. Il y a une solidarité profonde. Et c'est de cela que nous tirons nous-mêmes notre propre engagement aujourd'hui.
Alors, Jean-Jacques Pérennez, nous parlions de la grande histoire concernant la Première Guerre mondiale, dont il fut finalement l'un des acteurs. Le père Antonin Jossin va être également témoin de la grande histoire, celle du Proche-Orient, et je dirais même de la naissance de la question palestinienne.
Oui, comme on sait, l'Empire ottoman a été littéralement dépecé par les puissances occidentales, en particulier la France et l'Angleterre. Et un des cadeaux empoisonnés était la déclaration Balfour de 1917, où le ministre donc britannique Balfour avait promis la création d'un foyer juif en Palestine pour la diaspora juive. Et donc Jossin rentre de la guerre en 1918, il arrive à Jérusalem, il a du mal à reprendre l'habit d'autrefois, il reprend ses cours, mais ça le passionne plus tellement, etc. Puis il a 47 ans, c'est plus un jeune homme. Et donc son attention est attirée par les questions palestiniennes, parce qu'à ce moment-là, les premiers foyers juifs commencent à s'installer hein, dans les années 20, et il y a déjà des premières réactions palestiniennes. Et à ce moment-là, Jossin prépare un livre sur Naplouse, qui est d'ailleurs considéré comme un des premiers grands livres d'ethnographie urbaine. Et il voit naître, en effet, toute cette problématique de la résistance palestinienne à ce qui commencerait de la colonisation et ce qui sera plus tard la fondation de l'État d'Israël. Donc là, il est plus témoin, il n'est pas vraiment acteur, mais il alerte. Et alors, il faisait des dépêches pendant la guerre, mais il en fera encore après, qui sont au Quai d'Orsay. Et donc, il y a des traces intéressantes. Le professeur Henri Laurence, qui a eu la gentillesse de préfacer ce livre, dit qu'il a trouvé, pour son grand ouvrage sur la question de Palestine, il a trouvé dans les dépêches de Jossin un matériau d'information absolument exceptionnel et unique, parce que Jossin avait le coup d'œil. C'est un type du terrain qui voyait les choses.
En 1927, le père Antonin Jossin est appelé au Caire. Et là, commence, je dirais, le deuxième grand volet de sa vie, puisqu'il va rester une trentaine d'années en Égypte.
Oui, il va au Caire à la demande du père Lagrange, qui depuis le début du XXe voulait faire au Caire une fondation. Pourquoi ? Parce que, étudiant le texte dans son contexte, l'Égypte joue un rôle très important dans l'histoire biblique. Et puis il y a l'archéologie, il y a l'égyptologie. Et donc Lagrange rêvait d'avoir une sorte de foyer étudiant, un pied-à-terre au Caire. Et donc il envoie, ça n'avait pas pu se faire avant la Première Guerre mondiale, il envoie Jossin acheter un terrain en 1927 et construire une maison qui existe encore aujourd'hui.
Et dans laquelle vous vivez. Et
dans laquelle je vis, absolument. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jossin évidemment se bat, parce que c'est pas facile de trouver les sous, de construire un lieu, etc. Mais très vite, il a l'idée qu'il faut faire au Caire, en quelque sorte, ce qui a été fait à Jérusalem, c'est-à-dire un centre de recherche, de travail scientifique qui appréhende vraiment la réalité de l'islam dans ce qu'il a de plus authentique. C'est pas une problématique d'orientalisme de l'étranger, je dirais. C'est quelqu'un qui, là encore, veut se mettre dedans et qui comprend qu'il faut aller à la rencontre du monde musulman par ses élites.
Par ses élites et par la redécouverte aussi, notamment, ça c'est pour les médiévistes, par la redécouverte des philosophes musulmans inconnus qui ont joué un rôle capital.
Oui, il y avait tout un travail qui se préparait dans ces années 30 avec en France des gens comme Étienne Gilson, plus tard Louis Massignon, etc. Déjà à cette époque, Louis Massignon, de gens qui comprennent que le monde arabe médiéval a joué un rôle capital dans la transmission de la culture grecque à l'Occident médiéval. Et donc il y a là ce que certains appellent un chaînon manquant, c'est-à-dire il faut créer un groupe de spécialistes, de gens qui sont capables de maîtriser cette transmission. D'où l'accord que très vite Jossin a avec le roi Fouad, qui est un homme de culture, sur le projet d'un... Alors il envisage au début un projet absolument pharaonique, avec des tas de choses, parce qu'il fallait ramasser des sous, hein, en fait. Et il va être assez malheureux ensuite quand c'est construit, parce que c'est d'abord un couvent, comme nous disons aujourd'hui, de ministère, c'est-à-dire où on prêche, où on fait des retraites, des choses qui sont très utiles. Mais Jossin avait une vision pour cette maison-là. Et elle ne va se réaliser finalement que dans les années 50, quand arrivera le père Annaouati. Mais la thèse de mon livre, c'est que cette idée développée par Annaouati d'un institut spécialisé dans la connaissance scientifique du monde de l'islam, Jossin la portait déjà. Et il disait, avec un peu d'impatience, jusqu'à la fin de sa vie, il faut que l'ordre dominicain conserve sa tradition musulmane. Ou même, il disait, retrouve sa tradition musulmane. Quelle est cette tradition ? Nous avons des frères qui sont allés à Bagdad au XIIIe siècle. Nous avons des frères qui ont passé toute leur vie à sillonner ce monde-là, à apprendre des langues, et qui sont dedans. Et là encore, c'est pas un orientalisme plaqué, c'est des gens qui sont avec.
Alors précisément, avant de poursuivre sur le père Jossin et le père Georges Annaouati, qui réalisera le rêve du père Jossin donc au Caire, quelques mots encore sur ce Caire et sur la construction du bâtiment de l'IDEO, donc en 1930. À ce moment-là, le Caire est en véritable ébullition, j'allais dire, intellectuelle, architecturale même. Et d'ailleurs, l'IDEO, donc l'Institut d'études dominicaines du monde oriental, a été construit par Auguste Perret, c'est ça ?
Oui. Hein,
le grand architecte qui annonce Le Corbusier.
Tout à fait, Perret qui a construit le théâtre des Champs-Élysées, l'église du Raincy. Pourquoi ? Parce que il y a eu à l'époque du Khedive Ismail une fascination pour le Paris haussmannien. Et donc il y a eu une sorte d'engouement pour des grands boulevards, c'est ce qu'on appelle le Caire Khedivial, enfin et la rue Soliman Pacha, la rue Emadeddin, il y a des immeubles magnifiques. Et du coup ça a attiré beaucoup d'architectes de différents pays, beaucoup d'Italiens. Les Égyptiens qui avaient un peu d'argent se faisaient des villas à la Florentine. Enfin, il y a une espèce d'effervescence étonnante. Alors, Jossin ne tombe pas là-dedans, mais il fait appel de fait à un grand architecte qui lui fait des plans. Et il aura mille misères pour réaliser tout ça, surtout pour trouver les sous. Mais il réalise une maison qui a une belle allure et qui est fonctionnelle, qui est simple.
Ce qui ressort, Jean-Jacques Pérennez, dans votre livre, c'est que finalement, c'est le père Georges Annaouati, ce grand intellectuel égyptien, qui va réaliser le rêve du père Jossin, à savoir donc donner à l'IDEO vraiment tout son caractère, je dirais, de recherche pour l'islam.
Oui, il se trouve que lorsque Jossin construit ce couvent dominicain du Caire dans les années 30, au même moment, l'ordre dominicain reçoit une demande du Saint-Siège par le cardinal Tisserand de créer un centre de recherche sur l'islam, constatant qu'au fond, la problématique missionnaire du 19e siècle a très bien marché, si j'ose dire, en Afrique et ailleurs, un peu en Asie aussi, mais pas du tout dans le monde musulman. Et donc, il y a la recherche d'une nouvelle approche, plus par la culture. Et cela va être rendu possible parce que le père Chenu, à l'époque recteur des facultés du Sochoir, a parmi ses étudiants Georges Anawati, un jeune alexandrin, né en 1905, qui est déjà frotté de philosophie et qui est donc en France dans les années 40 pour faire ses études. Et Anawati se prépare à repartir en Égypte, où il arrive en 1944, pour essayer justement de créer un contact avec le monde musulman par le biais de son élite culturelle. Et le fait d'être proche des Lazars va être un atout extraordinaire. Il est lui-même égyptien, il a fait lui-même des travaux sur Avicenne, sur Averroès, il est reconnu comme quelqu'un d'extrêmement compétent. Le premier grand ouvrage qu'il va faire en 1948 s'intitule « Introduction à la théologie musulmane ». Et c'est un ouvrage qui n'a été possible que parce que Anawati avait un contact direct avec tous ces oulémas qu'il allait écouter, qu'il allait interroger. Il n'a pas un regard étranger sur la réalité de l'islam, il se met dedans en quelque sorte avec des intellectuels musulmans. Et donc là, d'une certaine manière, oui, Anawati réalise ce que Jossin avait rêvé.
Est-ce que vous considérez Père Jean-Jacques Pérennès comme précisément l'héritier de Georges Anawati et puis aussi bien sûr du père Antonin Jossin?
Non, absolument pas. Je n'ai ni l'envergure physique du premier ni l'envergure intellectuelle du second. Mais disons, je suis avec une équipe qui poursuit cette œuvre. Et ça, c'est extrêmement beau. Nous avons fait un bilan récemment de notre travail pour essayer d'évaluer ce que nous faisons. Et le premier mot qui est sorti, c'est le mot « passion ». Et c'est pas moi qui l'ai prononcé. Ça venait d'un jeune frère de 45 ans. J'ai trouvé ça magnifique que le premier mot soit le mot passion, celui d'ailleurs que j'ai pris pour le livre sur Jossin.
Passion pour l'Orient musulman, hein, c'est voilà. Ce titre. Oui.
Donc en fait, Anawati a réussi à créer un climat de qualité, une relation de qualité avec le monde musulman, basée beaucoup sur l'amitié et sur le respect. Deuxièmement, il a créé une bibliothèque exceptionnelle. 260 000 volumes reconnus dans le monde entier aujourd'hui, servis par des frères qui sont avec moi, qui sont extrêmement compétents. Et donc ces deux outils-là nous permettent aujourd'hui d'être présents, modestement, nous sommes des étrangers, mais présents dans cette réflexion qui se fait aujourd'hui sur l'évolution de l'islam, l'islam et l'Occident, toutes ces questions-là. C'est très passionnant d'être là-bas aujourd'hui, et précisément même aujourd'hui dans ce printemps arabe, d'être dedans, quoi, d'être en plein dans l'ébullition. On me demande parfois, mais qu'est-ce qui va se passer si les islamistes prennent pouvoir? Je dis, mais écoutez, on verra, on s'adaptera. Mais de toute façon, l'important pour nous, c'est d'être là-bas. Et je peux témoigner que nous avons, par les étudiants qui fréquentent notre bibliothèque, par des oulémas, y compris aujourd'hui le grand imam qui nous est très amical, nous avons la chance d'avoir une sorte de relation de vraie qualité.
Avec Al-Azhar, par exemple?
Oui, avec Al-Azhar, avec des intellectuels. Et j'aime dire, vous savez, quand on a une relation d'amitié, ensuite on peut avoir un désaccord intellectuel. Mais il faut d'abord qu'il y ait un terrain humain où il y a l'amitié, il y a le respect mutuel. Quand ça s'est créé, ensuite on peut discuter.
Les jeunes chercheurs sont essentiellement musulmans? Les jeunes chercheurs qui viennent chez vous, dans la bibliothèque?
Oui, ils sont musulmans à 98%, je pense. Hein. On prend des gens en magistère et en doctorat. Il y en avait plus de 1800 inscrits l'année dernière. S'il fallait résumer en une formule, je dirais notre ambition, c'est de bâtir des ponts. À une époque, on fait des murs au Moyen-Orient. Et nous voulons être un pont, et nous sommes un pont. Hein. Les gens savent que nous sommes des religieux catholiques, et en même temps, ils viennent chez nous parce qu'ils y trouvent de l'amitié, des livres, un climat d'études et de recherches. Et c'est une aventure extrêmement passionnante, qui me rend beaucoup plus confiant que ce que j'entends aujourd'hui sur « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer, le printemps arabe, etc. »
Oui, le printemps arabe qui va devenir un hiver pour les chrétiens notamment. Ça, on entend ça souvent aussi.
Oui, bien sûr, et je crois que c'est abusif, parce que aujourd'hui, les chrétiens ont la possibilité d'être des citoyens de leur pays.
Vraiment ?
Je crois, ils peuvent voter, ils peuvent entrer. Alors, ils sont minoritaires, mais enfin, quand même, en Égypte, il y a 8 millions de coptes.
Oui, mais qui sont marginalisés aussi, dans la fonction publique, par exemple.
Certains sont, oui, ils ne sont pas massivement, disons, dans les hautes fonctions, il y en a quelques-uns. Mais je pense que beaucoup de musulmans aujourd'hui ne voient pas ça d'un bon œil. Et donc je pense qu'une perspective est ouverte aussi pour que les chrétiens prennent davantage leur place dans ce pays. Je pense, ma carte à moi, c'est celle de la confiance.
Vous estimez qu'il y a un certain nombre de musulmans, effectivement, qui aimeraient qu'il y ait plus d'égalité entre, par exemple, entre coptes et musulmans ?
Je ne l'estime pas, je l'entends dire tous les jours. Beaucoup pensent que ce n'est pas juste, qu'il y ait une discrimination à cause de la religion. Mmh. Il n'est par exemple pas pensable qu'un chrétien soit dans une grande équipe de foot nationale. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Parce que un grand but sur un grand match international, il ne peut pas être marqué par Girgis ou par John, quoi. Il faut que ce soit Ahmed ou Mustapha. Ça ne va pas. Et je connais plein de musulmans qui trouvent que ce n'est pas normal. Vous voyez, c'est ces petites corrections du vivre ensemble au quotidien, c'est ça qui devrait bouger. Et j'espère que le nouveau pouvoir égyptien ne va pas décevoir les espoirs qui sont nés pendant la période de révolutionnaire que nous avons vécu, et qu'on va pas retomber soit sous un islamisme étroit et rétrograde, soit sur un régime répressif comme était celui d'avant.
Vous vous montrez une belle confiance en l'avenir.
Oui, vous savez, la confiance c'est une vertu, c'est-à-dire que ça a des fruits. Quand vous êtes confiant, vous donnez de la confiance aux autres et du coup, ils se remettent eux-mêmes en route. Hein, quelqu'un qui est découragé, si on arrive à lui remonter le moral un peu et à l'impliquer dans une action, ben on fait bouger les choses.
Pour conclure, Père Jean-Jacques Pérennez, vous évoquiez ces religieux de la fin du 19e, du début 20e, qui prenaient juste un aller simple pour l'Orient. C'est votre cas ?
Absolument, il faut prendre un aller simple. Sinon, si on est dans une problématique de possible repli, de possible retour, on n'est pas vraiment engagé et impliqué. Alors évidemment, si un jour je suis extrêmement malade, probablement qu'on va me faire soigner à Paris. Mais je n'ai pas ça dans l'esprit. Je pense qu'il faut être avec jusqu'au bout, quoi qu'il arrive.
Cette passion pour l'Orient musulman, vous l'avez à fond ?
Absolument, c'est un grand bonheur.
C'était le père Jean-Jacques Pérennez. La biographie du père Antonin Jossin est publiée aux éditions du CERF. Fin de Religion du Monde, présentée par Geneviève Delru et réalisée par Cécile Bonissi. À dimanche prochain, bonne semaine à tous.